J'ai trouvé un texte qui m'a semblé assez étonnant dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, où Moïse éprouve des difficultés à tout diriger tout seul et Dieu va lui expliquer comment il doit s'entourer pour pouvoir gouverner son peuple. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 11, à partir du verset 14. Moïse est un peu débordé par la tâche qui lui incombe.
Il veut de l'aide.
Anciens, et dit Dieu, je mettrai sur eux une part de ton esprit pour qu'ils gouvernent. Alors Moïse rassemble les 70 anciens, Dieu prend une part de l'esprit de Moïse pour le mettre sur eux, et les anciens prophétisent, tout va bien, sauf que ça ne dure pas. Et en particulier, ils avaient oublié deux personnes, dont on donne les noms, Eldad et Médad, qui étaient restées dans le camp. Et l'esprit était bien sur eux, mais on avait oublié de les convoquer, donc ils ne sont pas venus. Mais ils prophétisent quand même. Alors Josué, jaloux, veut les en empêcher. Moïse dit, écoutez, non, pas du tout, il n'y a pas de problème, on n'est jamais de trop. Et finalement, Moïse dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Voilà l'histoire. Donc Moïse s'entoure d'anciens sous le conseil de Dieu, pour l'aider dans sa charge. Dieu est invoqué, il donne l'esprit, il prophétise, c'est ce qu'on leur demandait. Et prophétiser, ça ne veut pas dire inventer l'avenir ou prédire l'avenir. Prophétiser dans la Bible, ça veut dire dire la parole de Dieu. C'est-à-dire témoigner dans le monde des valeurs de l'Évangile. Prophétiser, c'est dire le projet créateur de Dieu pour l'humanité et pour le monde. Dire son plan, autrement dit. Et parler sous l'inspiration de l'Esprit, c'est pas dire des choses auxquelles on ne comprend rien, mais c'est être justement donné des enseignements spirituels qui soient dans la lignée de la volonté de Dieu. Alors cette organisation proposée par Dieu est finalement très cléricale. Il dit, très bien, Moïse ne peut pas se débrouiller tout seul, on va faire une organisation. Et on va nommer 70 anciens. Alors, les anciens, en grec, ça se dit presbytéros, l'ancien, donc c'est un conseil presbytéral, mettons. Presbytéros, c'est aussi le mot qui a donné le mot prêtre en français. Donc, on prend des gens choisis, 70, auxquels on dit qu'ils reçoivent l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de parler et de gouverner pour Dieu. Donc on institue en quelque sorte une sorte d'organisation religieuse et spirituelle. Donc je dirais, a priori, Dieu, là, est favorable à un système très organisé et très clérical. Mais là où ce texte devient absolument génial, c'est qu'en fait, on voit que ce système clérical ne marche pas. C'est-à-dire que les 70 anciens qu'on a nommés, ils prophétisent un peu et puis le texte dit que rapidement ils s'arrêtent. Et on n'entendra plus jamais parler d'eux. Donc, ils disparaissent complètement. Et donc, on voit que ça ne marche pas, ce système, et que les seuls bons, les seuls vraiment de valeur qui prophétisent dans la durée et la continuité, qui sont formidables, les seuls dont on donne le nom, d'ailleurs, Eldad et Médad, eh bien, ils n'avaient même pas été convoqués. Ils n'avaient pas été accrédités. Donc, voilà ce texte qui m'amuse, parce que Il a une critique redoutable de nos organisations humaines et il montre que on peut toujours essayer d'organiser les choses. Finalement, ce sont pas toujours les meilleurs que l'on choisit et cette organisation où on veut déléguer le pouvoir à certaines personnes, finalement, on le donne pas aux meilleurs et souvent les meilleurs ils passent à travers les radars, dirais-je, et ne sont pas dans les grilles de lecture ou dans les grilles de choix de l'institution. Et de même, dans nos églises ou ailleurs, on peut créer des commissions, des sous-commissions, des comités pour ceci de pilotage, et finalement, ces commissions et ces sous-commissions ne servent souvent pas à grand-chose. Et ce qui se passe d'intéressant, c'est en dehors. Et puis, ça montre aussi que, finalement, dès qu'on essaye de trouver des critères objectifs pour discerner les personnes. Qui a le droit de prendre la parole dans l'Église? Qui a le droit d'avoir un rôle dans l'Église? Qui qui a le droit d'être considéré comme quelqu'un de valeur, de valide, pour être témoin dans l'Église, dès qu'on essaye de fixer des règles, de trouver des critères pour choisir les bonnes personnes, eh bien, on en oublie. Et on passe parfois à côté de gens extraordinaires qui, finalement, passent à travers les grilles du filet, les mailles du filet. Et c'est vrai que finalement, les meilleurs de l'affaire, je vous l'ai dit, c'est deux personnes qui avaient été oubliées, Eldad et Medad, les deux seuls d'ailleurs dont on donne le nom, ce qui est un paradoxe, parce que les 70 autres, on ne sait même pas comment ils s'appelaient, les seuls dont on dise le nom, c'est ceux que Moïse avait oubliés. Ça, c'est étonnant. Et là, c'est un vieux thème qui va traverser toute la Bible et qui sera repris jusque dans l'Évangile. Ou dans la parabole des vignerons, Jésus cite le psaume 118, je crois, « La pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la tête d'angle, la pierre angulaire. » C'est-à-dire que souvent, effectivement, ceux que nous considérons comme étant dignes d'honneur, de gloire et de pouvoir, eh bien, sont pas forcément les meilleurs, et il y a des tas de gens qui sont les plus essentiels, qui sont en dehors. C'est le cas du Christ, qui ne répondait pas aux critères de valeur du bon Messie tel que l'imaginaient les pharisiens, donc qui passaient leur temps à essayer de trouver le Messie à leur goût, et finalement, quand arrive la vraie personne de valeur, eh bien, elle est totalement hors système, hors institution, et c'est Jésus, lui, rejeté par tout le monde, qui est la pierre angulaire. Et d'ailleurs, ces deux, Eldad et Medad, donc effectivement, seront les meilleurs, et ce seront eux seuls qui vont continuer à prophétiser. Les autres ne feront que des feux de paille. Le texte dit « ils prophétisèrent et ils ne continuèrent pas ». Donc oui, vous disais-je, dès qu'on fait des règles et des critères pour discriminer les gens, on risque d'oublier les meilleurs. Et là, on peut décliner ça dans mille exemples. Par exemple, la sélection scolaire. On sait très bien que ce ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux dans le cursus scolaire qui sont les gens de plus grande valeur. Ce ne sont pas forcément ceux qui réussissent les plus grands concours de l'État ou d'ingénieurs ou de choses qui sont les gens les plus talentueux. Et on a tous des nombres d'exemples de personnes qui, justement, sont d'autant plus géniaux qu'ils sont en dehors de ce système. C'est vrai aussi dans la gestion de notre société, là je ne veux pas trop rentrer en détail là-dedans, mais quand on veut dire telle population sont bons et ceux-là on en veut bien, telle autre population sont mauvais, on n'en veut pas, eh bien on se prive évidemment certainement de personnes d'une valeur exceptionnelle et ces critères humains sont peut-être pas forcément toujours mauvais d'un point de vue global parce qu'il faut bien avoir des critères globaux pour gérer un pays ou un groupe, mais ils sont souvent individuellement faux. C'est-à-dire que la personne ne peut pas être mise dans un sac en disant « toutes les personnes de telle catégorie sont mauvais ou bons ». C'est plus compliqué que ça. Et je crois que l'Évangile nous invite à être sans cesse attentifs aux personnes elles-mêmes et ne pas trop regarder, j'allais dire, les rôles institutionnels, les fonctions officielles, parce que ce n'est pas ça qui donne la valeur réelle d'un individu. Donc oui, on a aussi ça, l'invitation à ne pas se laisser décourager par les critères humains. J'allais dire quand on les subit, ça veut dire que parfois, soi-même, on est rejeté par l'opinion moyenne, mainstream. Ça ne veut pas dire qu'on ne vale rien, parce que ces opinions moyennes n'ont rien à voir avec la vraie valeur. Et pour ne parler que de la gouvernance de l'Église, ce pourquoi je peux avoir quelque autorité, et de dire, prenons garde, lorsque l'Église prétend dire qui est digne ou pas d'être admise dans l'Église ou de recevoir tel ou tel sacrement. Quand on dit il y a telle condition pour pouvoir être baptisé, pour qu'on puisse accepter que l'enfant soit baptisé, telle ou telle condition pour pouvoir accéder à la Sainte-Cène, telle ou telle condition pour être membre de l'Église, telle ou telle condition pour pouvoir bénéficier d'une bénédiction nuptiale ou de mariage ou d'autre chose. Dès qu'on veut mettre des règles comme ça, eh bien, on a tort. Voilà, et je milite pour une église ouverte, finalement, et qui puisse accueillir, évidemment, les 70 qui sont bienvenus, mais aussi les deux qu'on a oubliés, qui étaient les plus essentiels et qui ont fait, finalement, la chose la plus fondamentale. Parce que nos critères, bon, finalement, ils sont ce qu'ils sont, pourquoi pas, mais en tout cas, Dieu seul connaît qui a vraiment de la valeur. Alors, les deux oubliés, d'ailleurs, ces deux-là, ils m'amusent, ils m'intéressent, Eldad et Medad. Est-ce qu'ils faisaient partie des 70? Non, en fait, je ne pense pas. Je pense qu'il y en a 70 plus 2. Ce qui fait, attends, là c'est la petite leçon de mathématiques du jour, mais vous allez y arriver. 70 plus 2, ça fait 72. 72, c'est 6 fois 12, c'est ça? Donc c'est tout à fait logique. Il y a 12 tribus, et en fait, Moïse choisit 6 personnes par tribu. Et comment se fait-il que dès le début, vous n'ayez pas tiqué en disant « Mais attendez, non, c'est pas 70 qu'il en faut, c'est évidemment 72 !» S'il y a 12 tribus, qu'on en prend 6 par tribu, ça ne peut jamais faire 70. Donc, dès le départ, le 70, c'était idiot. Voilà, il en manquait 2, évidemment. Mais je m'en suis rendu compte qu'après. Au début, je me suis fait avoir, comme vous, j'imagine. Je ne me suis pas dit au début, mais oui, forcément, c'est 72, 6 fois 12. Et donc, en fait, voilà, il en manquait 2 dès le départ. C'est évident, mais c'est évident après coup. Et donc, méfions-nous. Parce que, finalement, ces deux-là feront plus de travail que les 70 autres, ce qui montre aussi que ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est, une fois de plus, la qualité et la valeur des gens. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Intéressons-nous à Eldad et Medad. Les 70 autres, ils m'ennuient, c'est des apparatchiks, ils n'ont pas d'intérêt. Mais Eldad et Medad, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Le texte dit qu'ils étaient bien inscrit quand même, en fait, Dieu y avait pensé, quoi, mais ils n'étaient pas allés à la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'était en fait l'église portable de l'époque, hein. C'était une tente avec l'arche d'alliance devant et ça représentait la présence de Dieu. Donc Eldad et Medad, ils se baladaient dans le camp et ils n'étaient pas à l'église. Petite piqûre déjà pour nous, moyennement agréable. En fait, Eldad et Medad, c'était des gens sympathiques, mais pas du tout pratiquants. Bon, bah voilà. Et ils vivaient parmi le peuple, ils étaient avec les autres, mais ils n'étaient pas à l'église, ils n'étaient pas autour de la tente de la rencontre. Et donc, ils étaient avec les autres dans le camp, et ça, c'est important aussi de dire, finalement, la valeur n'est pas liée à, je dirais, au taux de pratique, si vous voulez, et qu'il y a des gens formidables qui ne sont pas forcément les plus pratiquants. Bon, je dis ça, c'est pas de chance, puisque vous êtes là à l'église, vous êtes tous formidables, hein, je ne vous en veux pas, et je ne prêche pas seulement pour ceux qui ne m'écoutent pas. Mais en tout cas, méfions-nous, voilà, ce n'est pas un critère, c'est ça que je veux dire. Cela dit, ils n'étaient pas juste des sortes de païens qui se fichaient de tout. Là, après ma leçon de mathématiques, ma petite leçon d'hébreu, le texte dit littéralement, Eldad et Medad étaient inscrits, mais n'étaient pas à l'attente de la rencontre. Mais ils étaient dans le camp. Ils étaient dans l'inscription. Et moi, quand je lis en hébreu, ça donne, ils étaient dans l'écriture. Ah, quelle écriture? Il n'y a jamais eu d'écriture? Ah si, l'écriture avec un grand E, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et donc Eldad et Medad, certes, n'étaient peut-être pas présents à la rencontre, mais ils avaient deux qualités. L'une, c'est qu'ils étaient dans le monde, et l'autre, c'est qu'ils étaient plongés dans l'écriture, c'est-à-dire dans la Bible. Ils n'allaient peut-être pas beaucoup à l'attente de la rencontre, mais ils étaient dans la lecture et ils lisaient la Bible. Et là, c'est toute la vision que nous avons, nous, de l'organisation de l'Église en général, et même les pasteurs, où on dit un pasteur n'a pas à vivre simplement dans l'Église et à être retiré du monde. Le pasteur doit être dans le camp, avec les autres, et il vit avec les autres les difficultés, les joies et les peines de ceux qui, comme beaucoup de gens, sont dans le monde tout simplement, avec une famille à gérer, avec les problèmes de tout le monde, avec des joies et des peines, avec des loisirs et des temps perdus et des deuils et toutes choses. Et donc le pasteur doit être dans le monde. Et ça, je dois sans arrêt le rappeler, de dire que être dans le monde pour un pasteur, c'est pas une licence, C'est-à-dire qu'on ne dit pas, oh ben les pasteurs, on va leur permettre de se marier parce que comme ça, on en aura plus, si vous voulez. Ce n'est pas ça. C'est un véritable choix de vie que le pasteur doit être dans le monde. C'est essentiel. Ce n'est pas une facilité. C'est peut-être même une difficulté, mais c'est essentiel. Eldad et Medad ne se contentaient pas de se faire plaisir entre eux comme les 70 qui s'auto-congratulaient autour du Saint-Siège, mais ils étaient dans le camp et plongés dans l'Écriture. Et là, il leur sera donné la plénitude de l'Esprit, comme aux autres. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de nécessité d'être dans la pratique, je dirais, l'essentiel c'est d'être dans l'Écriture. Ou alors on peut dire qu'Eldad et Médad ne recherchaient pas les honneurs, ils étaient humbles, ils étaient dans l'action, ils étaient avec les autres, ils ne cherchaient pas des titres honorifiques d'être parmi les 70 anciens qui gouvernent le peuple, ils s'en fichaient, ils étaient dans le monde et ils prophétisaient. L'important, c'est d'être dans l'esprit et d'être avec le monde et de comprendre que le sacré est partout et que Dieu n'est pas plus présent à l'attente de la rencontre que dans le camp. Et que même au contraire, peut-être est-il plus présent dans le camp avec tout le monde que à l'attente de la rencontre. Et puis, il y a la critique des bien-pensants qui donc disent, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Il faut les empêcher, il faut les arrêter, ils mettent tout en bazar notre organisation. Et là, on a exactement la même chose, vous savez, dans l'Évangile, au chapitre 9 de l'Évangile de Marc, où Jean dit à Jésus, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus dit, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse ensuite aussitôt parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc voilà l'exacte réplique de ce passage dans l'Évangile, où finalement Jésus dit que l'important c'est pas d'être ici ou là, mais c'est simplement de faire des choses positives au nom de l'Évangile. Donc la religion établie de tout temps veut empêcher qu'on puisse avoir la présence de Dieu ailleurs que chez elle. Et en fait, ça nuit à qui, ça, la possibilité qu'on puisse être un bon chrétien sans forcément être affilié à une église? Ça nuit à qui? Eh bien, ça nuit à qui vous voulez, mais pas à Dieu. Voilà, c'est ce que dit exactement Moïse, en fait. Il dit, tu es jaloux pour moi, c'est gentil, hein, peut-être qu'effectivement, ça me nuit à moi, ça pourrait, mais même pas, ça nuit seulement aux églises. Et Dieu prend de l'esprit de Moïse pour le mettre sur les anciens. Et justement, cette question de savoir à qui ça nuit, que quand on prend le pouvoir, on le prend à qui? La question des commentateurs antiques, c'était de dire, mais si Dieu a pris de l'esprit de Moïse pour le mettre sur les anciens, est-ce qu'il en a enlevé à Moïse? Évidemment, les commentateurs astucieux disent, mais bien sûr que non, Dieu ne prélève pas de l'esprit, et quand on prend de l'esprit de Moïse pour le mettre sur un autre, il se multiplie. Et l'exemple que donnent les rabbins antiques, c'est de dire, c'est comme les bougies du chandelier de Hanouka, là, c'est-à-dire qu'il y a la bougie centrale qui va illuminer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et c'est pas parce qu'une bougie allume la deuxième que la première s'éteint ou qu'elle brûle moins, mais simplement au début elle est toute seule et après il y en a sept ou neuf qui brillent tout ensemble. Et effectivement, de même, des parents qui, effectivement, qui s'aiment, est-ce qu'ils s'aiment moins parce qu'ils donnent une part de leur amour à l'enfant qui naît, peut-être? Réponse, non. Et donc, l'esprit ne se réduit pas quand on le donne. C'est comme l'amour. Si je donne de l'amour, j'en ai pas moins pour moi, et si j'en donne à un autre, j'en ai pas moins pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas comme ça. Il y a plutôt une forme de relais qui se passe et de multiplication. Alors, la réponse de Moïse, je vous l'ai dit, c'est de dire que si ça fait de l'ombre à quelqu'un, c'est éventuellement à lui et pas à Dieu. Je ne pense même pas que ça lui fasse de l'ombre à lui. Mais parfois, dans nos communautés, il y a des gens qui peuvent réagir comme ça. Des hommes d'église, ou des femmes d'église d'ailleurs, hein, qui peuvent confondre leur pouvoir avec celui de Dieu, et qui peuvent être très fiers du pouvoir qu'ils ont. Mais non, vous n'avez aucun pouvoir, le seul, c'est Dieu qui l'a. Et qu'est-ce que ça peut faire à moi, que quelqu'un se déclare chrétien sans mon accord? Qu'est-ce que ça peut me faire à moi que quelqu'un veuille venir ici au temple de l'étoile et se dire « moi je suis protestant » Est-ce que c'est à moi de juger qui est chrétien, qui est protestant, qui peut se dire ceci, qui peut venir là ou là? Je passe mon temps à voir des gens qui me disent « ah, à vous écouter, je serais prêt à me convertir ». Je dis « mais venez pas à vous convertir, vous êtes bienvenus, le dimanche c'est ouvert ». Il n'y a pas de conversion, on ne demande rien à personne. Et en tout cas, ce n'est pas moi qui vais donner des étiquettes aux gens. Vous, vous êtes protestant, vous ne l'êtes pas, vous vous êtes converti, vous ne l'êtes pas, vous avez le droit à ceci, vous n'avez pas le droit. C'est ouvert. Voilà. On peut se passer de mon autorisation pour être chrétien, on peut se passer de l'autorisation de l'Église pour se dire chrétien et pour aller où on veut dans nos églises. On peut se passer de l'autorisation de l'Église pour vivre en couple avec qui on veut et on peut se passer de l'autorisation de l'Église pour savoir si notre couple est béni. Voilà ce que je pense. Et on peut faire, et puis même dirais-je que même moi en tant qu'acteur de l'Église, je suis prêt à prendre du recul par rapport aux règles de l'Église. Les règles de l'Église sont, il en faut, enfin c'est très bien parfois qu'on puisse chercher en dehors des règles de l'Église des choses de valeur. Ça nuit à qui? En tout, peut-être à l'Église, je ne conteste pas, mais pas à Dieu. Voilà. Et Moïse dit, voilà, ah ce serait bien que tout le peuple soit plein de l'Esprit. Plein de l'Esprit de Dieu, plein d'amour, de pardon, de paix, et que tout le peuple puisse parler de Dieu. Et même il y exhorte. Et ça, j'y retrouve une autre valeur fondamentale de ce que nous enseignons dans nos églises réformées, c'est le sacerdoce universel. Et justement, il découvre que l'idée d'un sacerdoce numériquement limité des 70, ça ne marche pas. Et ce que Moïse dit, ce dont je rêve, c'est que le peuple entier soit prêtre. C'est ça en fait, c'est le sacerdoce universel. Et donc vous voyez, vous, conseillers presbytéraux ou diacres, que nous validons dans nos assemblées générales et que nous avons élus, vous êtes témoins privilégiés de l'Évangile et acteurs privilégiés de notre Église. Vous êtes les porte-parole de Dieu dans le monde, au sein de la communauté. Mais d'abord, n'oubliez pas que d'autres le font. Et que si vous n'êtes pas vous nommé dans les 70 diacres et conseillers presbytéraux, vous êtes peut-être vous le Eldad et Medad sur qui l'Église compte et dont elle a fondamentalement besoin. Et donc n'oublions pas, nous, de laisser faire les initiatives dans l'Église, de responsabiliser chacun, parce que c'est pour le bien du Seigneur. Il ne faut pas empêcher ceux qui ont envie de faire quelque chose pour le bien de la communauté. Toute personne qui témoigne dans sa vie des valeurs essentielles de l'Évangile est prophète, et c'est-à-dire appelé à être témoin de la grâce, de la fraternité, du pardon, de la générosité et de la compassion. Et donc, qui était Eldad et Medad? Alors, petit mot de fin pour vous dire ça. Je vous ai dit, on nous donne leur nom. Là, vous me voyez venir, j'adore ça. Vous savez que les noms en hébreu ont toujours un sens, plus que comme nos noms à nous qui ne veulent souvent rien dire, ça a un sens. Et pour ça, il faut savoir, ce que vous savez sûrement, que Dod en hébreu, ou Dad, ça veut dire l'amour. Voilà. Et donc El Dad, ça veut dire amour de Dieu. Et Medad, ça veut dire pour l'amour, ou de l'amour, mais mettons pour l'amour. Et donc voilà, Eldad et Medad, amour de Dieu pour l'amour. Deux choses essentielles. L'amour de Dieu, et je dirais l'amour tout court, ou simplement l'amour du prochain. Et c'est ça qui résume finalement toute la vie du chrétien, être aimé par Dieu pour aimer Dieu et surtout pour aimer le monde. Être aimé pour aimer, être aimé par Dieu pour aimer. Je dirais c'est ça finalement peut-être la devise du chrétien, ce qui me fait penser à celle de l'armée du salut que nous aimons bien. Je salue ma chère collègue Florence, qui est sauvé pour servir, c'est ça? Ouais. Sauvé pour servir. Devise d'armée du salut magnifique. Là, je dirais encore plus loin. Aimé par Dieu pour aimer. Voilà notre vocation. Et c'est ça que Moïse avait oublié, et avec son organisation, avec ses prêtres, ses anciens, ses 70 machins, ses trucs, etc. Il n'y a que deux choses qui comptent dans la vie. Aimé par Dieu pour aimer. C'est ça. Et ça, ça ne se passe pas autour de la tente de la rencontre. Ça se passe dans le camp. Et voilà ce que l'on risque quand on organise une église. On organise bien tout. Ils avaient pensé à tout, tout était bien calé. Ils ont oublié une chose, les andouilles, l'amour de Dieu et l'amour tout court. Toute leur organisation était formidable, mais ils ont oublié la seule chose qui pouvait donner le sens et la fécondité à leur affaire, c'est l'amour. Ils ont oublié de convoquer l'amour. C'est dingue, ça. Ils avaient 70 personnes. Il n'y en a pas un quasi maintenant. Il manque deux trucs, là. Et l'amour de Dieu, il est où? Et l'amour du prochain? Voilà les deux seuls que nous devons convoquer. Et donc, pour le conseil presbytéral, je voterai pour les deux seuls candidats, amour de Dieu, le premier, et l'autre, pour aimer. C'est les deux seuls en qui je donne ma confiance. Et c'est par la seule que l'Église pourra vivre. La seule chose qui compte, en fait, c'est le sommaire de la loi. Tu aimeras Dieu tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Voilà les deux seuls par lesquels l'Église peut vivre, rayonner et prophétiser, donner dans ce monde une parole de vie, de joie et de paix. C'est si on convoque sans cesse dans notre Église et où toutes nos communautés, amour de Dieu et amour de l'autre, je suis aimé par Dieu pour aimer. Amen.